en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 2 mai 2012, le Bureau des Longitudes accueillait une conférence d'Étienne Berthier, chargé de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire Midi-Pyrénées. Son intervention intitulée « Les satellites au chevet des glaciers » s'est intéressée au rôle de témoin que jouent les glaciers sur les évolutions climatiques. Étienne Berthier, qui travaille au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, présente les observations satellitaires effectuées ces dernières années. Je vous laisse maintenant écouter sa conférence qui s'est tenue à la Fondation Simonet et Sino del Duca. Pour accompagner les propos d'Étienne Berthier, vous pouvez consulter son PDF et les visuels qu'il a présentés qui sont mis à votre disposition en fin d'article.
Donc le titre a légèrement évolué par rapport à celui qui était annoncé, parce que c'est vrai qu'en préparant cette planche, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, on ne va pas se contenter de parler de satellites, car les mesures de terrain sont à la fois importantes pour valider les mesures satellitaires, mais aussi parce que certaines variables intéressantes ne peuvent pas être mesurées par les satellites. Et d'où l'évolution du titre. Il y a aussi derrière l'analyse des images des glaciologues. Et donc, s'y explique le titre qui évolue. On s'intéresse ici à un sujet qui est assez médiatique. Si vous suivez la presse nationale, vous allez sans doute régulièrement lire ce genre d'article au sujet de l'évolution des glaciers. Donc, Le Monde de décembre 2011, sur l'accélération de la fonte des glaciers. Plus récemment, il y a quelques semaines, plusieurs articles dans Le Figaro, mais aussi Le Monde de la semaine dernière, sur une région de l'Himalaya, le Karakoram, où les glaciers ne perdent pas de masse. Et puis en 2010, début 2010, au moment d'une polémique sur l'évolution des glaciers d'Himalaya, qui avait été induite par une erreur dans le rapport du GIEC aussi, il y avait eu une déferlante médiatique autour des glaciers. Alors, pourquoi cette focalisation autour de l'objet glacier? On peut considérer que c'est une des figures, c'est peut-être même la figure emblématique de l'évolution du climat. Et pourquoi cela? Parce qu'on peut très bien percevoir, à une échelle de temps de quelques années, quelques dizaines d'années, donc très perceptible par l'homme, l'évolution des étendues des glaciers, et on l'aperçoit beaucoup mieux que l'évolution de quelques décimales de la température. Cette évolution est illustrée par ces photographies des glaciers. En haut, un glacier au Pérou, en bas, le glacier Muir en Alaska. Donc en haut entre 78 et 2000, et en bas entre 1941 et 2004. Je crois que ça se passe de commentaires, le recul est éloquent. En bas, le glacier Muir a perdu plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. On peut faire le même travail de répéter des photographies comme ça dans les Pyrénées. C'est notamment un travail qui est fait actuellement par une association qui s'appelle Moraine et qui va prochainement publier un livre où ils vont revisiter certains sites pour reprendre les mêmes photos que celles qui avaient été prises à la fin du 19e siècle. Donc ici, pour les glaciers de l'Aneto et la Maladeta, j'ai rajouté des petites flèches pour que vous puissiez bien voir la position du front du glacier en 2009, parce qu'elle n'est peut-être pas évidente à distinguer des roches qui sont des granites très clairs. Mais là encore, l'évolution est éloquente. Peut-être encore plus spectaculaire, c'est des glaciers qui disparaissent. Ici, il s'agit d'un glacier qui constituait la piste de ski la plus haute du monde. On se trouve au-dessus de La Paz, en Bolivie, à 5300 mètres d'altitude. Et donc, les paseños pouvaient aller skier sur ce glacier de Chacaltaya. Vous comprenez qu'en 2008, à part du ski sur caillou, il va être difficile de faire autre chose. Donc, une figure emblématique. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est d'aller au-delà de ce côté très démonstratif, hein, ces photos sont intéressantes, et les glaciologues vont au-delà de ça et peuvent utiliser l'objet glacier comme un indicateur quantitatif des évolutions du climat. Et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer à travers cette présentation, donc à la fois avec des mesures sur le terrain et puis à la fois pour avoir une vision plus globale des observations qui sont faites par satellite. Donc pour l'exposé, je vais déjà situer ces glaciers, qu'on appelle aussi glaciers de montagne, au sein de l'ensemble de la cryosphère, pour bien qu'on sache de quoi on parle. Ensuite, on verra comment ce glacier fonctionne. C'est un préalable indispensable à une bonne interprétation de leurs fluctuations. Et donc, on verra ensuite ces fluctuations des glaciers et leur relation avec les évolutions du climat. Et je discuterai enfin les conséquences du recul des glaciers, à la fois en termes de hausse du niveau marin et puis de ressources en eau pour les populations de montagne. Donc, il faut bien distinguer donc ces glaciers que l'on distingue, donc l'ensemble des glaciers de montagne, à distinguer des calottes polaires et de la banquise. Donc je ne vais pas parler de calottes polaires ici, parce que Frédéric Rémy en a déjà parlé. On pourra peut-être revenir dessus à la fin s'il y a des questions. Mais je donne quand même des ordres de grandeur pour que vous ayez bien en tête les chiffres, justement, de ce dont on parle, notamment en termes de volume. Donc l'Antarctique, qui est à gauche, ici, couvre à peu près 24 fois la France, avec une épaisseur légèrement supérieure à 2 km. Et donc, si l'Antarctique fond intégralement, le niveau de la mer s'élève de 60 mètres. À droite, vous avez une vision satellite de l'hémisphère nord. Et donc, il faut bien distinguer la banquise, hein, de la glace de mer qui flotte et qui fait quelques mètres d'épaisseur, de la calotte polaire groenlandaise, qui, elle, est une calotte polaire, donc avec une neige et une glace qui est d'origine météorique, qui vient de l'accumulation de neige qui vient de l'atmosphère. Donc, à bien distinguer, il n'y a pas de calotte glaciaire au pôle nord. Il y a une calotte sur le Groenland et il y a la banquise sur l'océan Arctique. Le Groenland, lui, donc cette calotte glaciaire, a un volume à peu près 10 fois plus faible que celui de l'Antarctique. S'il fond, le niveau de la mer s'élève d'environ 6 mètres. Et donc la dernière catégorie, hein, c'est un peu ce fourre-tout, qui sont les glaciers ou glaciers de montagne. Vous avez cette carte qui vous illustre la répartition des surfaces de glaciers à la surface du globe. Donc les grandes zones de concentration de glaciers, ben, je pense que vous les connaissez, hein, c'est l'Alaska, les archipels d'îles canadiennes, la Patagonie et puis évidemment les montagnes d'Asie centrale. Donc on inclut dans cette catégorie à la fois des petites calottes glaciaires comme celle du Vatnajökull en Islande. Donc c'est, si vous voulez, des modèles réduits des grosses calottes polaires antarctiques et groenlandaises. Le Vatnajökull fait quand même la taille de la Corse, pour vous donner encore des ordres de grandeur. On inclut aussi des champs de glace, comme ceux d'Alaska et de Patagonie. Et puis un glacier montagne, peut-être qu'on peut qualifier de typique, un peu ceux du massif du Mont-Blanc, comme la mer de glace. La surface cumulée de ces glaciers, c'est un peu plus grand que la France, avec une épaisseur moyenne qui est mal connue, mais qu'on estime à 250 mètres. Donc vous avez, en multipliant ces deux chiffres, leur volume total, et donc l'équivalent en termes du niveau marin, c'est-à-dire s'ils fondent demain, tous, intégralement, le niveau de la mer s'élève de 60 cm. Donc c'est facile à retenir, hein. On a un ordre de grandeur à chaque fois entre l'Antarctique 60 mètres, le Groenland 6 mètres, et ces glaciers 0,6 mètres. Alors ça peut paraître faible en termes de volume total, par contre ce qu'on va voir c'est que sur des courtes périodes de temps, leur temps de réponse aux fluctuations du climat sont rapides, et donc malgré ce volume total faible, ils comptent dans les budgets de hausse du niveau marin. Donc pour vous présenter l'objet glacier, hein, cette photographie de la mer de glace, peut-être un glacier un peu typique, hein, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller voir la mer de glace, avec cette photographie qui est prise à la fin de l'été, donc à la fin de la période de fonte, et pourtant, dans la partie haute, on voit que c'est bien de la neige qui reste en surface du glacier. Donc toute la neige accumulée au cours de l'hiver n'a pas fondu. Et donc on est ici dans la zone d'accumulation où le glacier gagne en bilan net sur l'année. Et à l'inverse, dans la partie plus basse, la neige hivernale a complètement fondu. Et après la fonte de la neige, c'est la glace qui fond. Et donc ici, on est dans une zone où le glacier perd de la masse en bilan net annuel. Et donc c'est la zone qu'on va appeler zone d'ablation. Sur cette image, vous pouvez aussi voir les structures propres à l'écoulement du glacier, donc à la fois dans les zones très pentues, des zones très crevassées, selon les chutes de Sérac, et puis dans la partie plus basse de la mer de glace, vous voyez ces ogives, ce qu'on appelle les bandes de Forbes, cette alternance de bandes sombres et claires qui traduisent aussi l'écoulement du glacier, qui est plus rapide en son centre que sur ses bords. Donc à partir de cette image, on peut deviner quel est le fonctionnement du glacier entre une zone d'accumulation dans sa partie haute, où la neige s'accumule, se densifie, se transforme en glace lorsqu'elle atteint une densité de 0,9. Et puis, à la différence de la zone d'ablation, donc où en moyenne annuelle, le glacier va perdre de la masse. Donc pour illustrer l'évolution de ces deux zones et surtout vous montrer à quel moment les glaciologues vont faire des mesures sur le terrain, je vais vous montrer des petites coupes de ces zones et leur évolution au cours du temps, au cours d'une saison glaciologique, une saison qui commence en septembre, à la fin de la période de fonte. Donc l'année glaciologique est différente de l'année calendaire. Donc septembre-octobre, début de la période d'accumulation, le glacier accumule par les chutes de neige hivernales, et puis début mai, c'est la fin de l'hiver glaciologique, donc c'est maintenant là, même si on ne le voit pas dehors, hein. C'est le début de l'été pour les glaciologues, et donc on va faire une première série de mesures sur le terrain qui vont nous donner l'accumulation hivernale. Donc typiquement, hein, quand vous êtes dans le massif du Mont-Blanc, dans le bassin d'accumulation de la mer de glace, on a 6 à 8 mètres de neige qui s'accumulent. Et on aime bien traduire ça sous forme d'une lame d'eau équivalente pour avoir une unité en fait identique entre la partie haute et la partie basse du glacier, puisqu'en haut, c'est plutôt de la neige qui s'accumule et en bas, c'est de la glace qui fond, deux matériels qui ont des densités différentes. Donc on convertit ces hauteurs via la mesure de la densité en lame d'eau équivalente. Et donc typiquement, dans la partie d'accumulation du glacier. Ce sont 2-3 mètres d'eau qui s'accumulent au cours de l'hiver. Et puis même dans la partie haute de la mer de glace, il y a de la fonte au cours de l'été, et donc une partie de ce manteau neigeux va fondre. Et donc en septembre, les glaciologues font une deuxième série de mesures qui nous donne cette fois le bilan de masse annuel, et donc l'accumulation totale au cours de l'année. Donc positif dans la zone d'accumulation. Donc c'est illustré ici par cette photographie, hein, une coupe naturelle au niveau d'une crevasse, où vous voyez très bien les couches hivernales très claires, et puis au contraire les horizons estivaux qui sont très sombres, parce que c'est une période où on a un peu de fonte, et donc les poussières vont se concentrer dans l'horizon en surface, et donc on voit très bien ces horizons un peu plus sombres. Dans la partie basse d'un glacier dans les Alpes, par exemple, là encore, il y a des chutes de neige hivernales. Jusqu'en mars-avril, le glacier va accumuler. Et puis, à partir de mai-juin, une fois que le manteau neigeux qui recouvrait le glacier a disparu, cette fois, c'est bien de la glace qui se met à fondre. C'est symbolisé en orange ici. Et donc, on va ainsi mesurer le bilan de masse annuel en septembre, après une année de mesure. Et voilà pour les ordres de grandeur. Vous avez chaque année 7, 8, voire parfois plus, 9, 10 mètres de glace qui disparaissent chaque année dans la partie basse du glacier. Alors attention, ce n'est pas la variation d'épaisseur du glacier, c'est la quantité de glace qu'il a perdue, parce que vous l'avez déjà compris, il y a une zone qui accumule, une zone qui perd chaque année de la masse, et donc forcément, il y a un écoulement du glacier par gravité qui va redistribuer la masse accumulée vers les parties basses, et donc compenser l'accumulation en haut et compenser l'ablation dans la partie basse. Donc c'est ce que vous avez symbolisé ici. Donc vous avez les lignes d'écoulement à l'intérieur d'un glacier. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais globalement il y a deux processus qui expliquent le mouvement du glacier. Hein. Le moteur, c'est bien la gravité. Puis en termes de processus, donc il y a à la fois le glissement basal qui est lié au fait qu'il y ait de l'eau à la base du glacier et donc le glacier peut glisser en masse sur son substratum. Et puis un autre processus à l'échelle microscopique de déformation interne des cristaux de glace, et donc les deux combinés font le mouvement du glacier. La conséquence de ça et de cette redistribution de masse, c'est qu'il faut aussi un certain temps avant que le front du glacier ne réponde à une variation du bilan de masse. On a par exemple une période d'excès d'accumulation dans la partie haute du glacier. Vous comprenez qu'il va falloir un certain temps pour que le front réagisse et se mette à réavancer. Et on y reviendra sur cette question-là un peu plus tard de manière plus concrète. Donc le mouvement des glaciers peut se mesurer sur le terrain, évidemment, mais également par satellite, et ça vous est illustré par cette animation ici. On a 3 images du satellite Spot 5 qui ont été acquises au cours de l'été 2003, en juillet, août et septembre. On a recalé ces images de manière la plus précise possible, et donc l'animation vous montre clairement le déplacement du glacier depuis le sud vers le nord ici. À partir de là, on va pouvoir passer à le corps de l'exposé. Hein, vraiment, c'est ce qui concerne les fluctuations glaciaires et climatiques. Et il faut bien comprendre qu'historiquement, hein, les glaciers ont toujours été, et les fluctuations des glaciers ont toujours été intimement liées aux fluctuations du climat, puisque c'est eux qui ont apporté les premières évidences que le climat avait varié dans le passé. Notamment, les premières évidences, elles sont apportées par ces observations de gros blocs moréniques, comme ce gros caillou situé sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Et très vite, hein, les premiers naturalistes, dont Agassiz, ont dû admettre qu'il n'y avait pas d'autre force de déplacement à la surface terrestre capable de transporter un caillou de cette taille autre que les glaciers. Et comme au moment où ils font cette observation, les glaciers sont déjà bien loin, retranchés à l'intérieur du massif alpin, il faut admettre que les glaciers ont varié et donc que le climat lui aussi a varié. Donc ça, c'est des premières preuves indirectes qui permettent de reconstruire l'évolution des longueurs des glaciers. Ensuite, beaucoup plus récent évidemment, on peut utiliser des peintures qui nous montrent l'état des glaciers dans le passé, ici par exemple au début du 19e siècle, la mer de glace et puis du glacier des Bossons dans le massif de Chamonix, donc on voit très bien la position des glaciers. On peut utiliser ce genre d'informations pour construire des courbes de variation de longueur des glaciers. Et puis aujourd'hui, on peut... Depuis, je dirais, les années 70, avec les premiers satellites d'observation de la Terre, on peut arriver à reconstruire, via des animations d'images satellites, les variations de longueur des glaciers. C'est ce que vous avez ici pour des glaciers de l'Himalaya entre 2003 et 2009. Et donc, vous voyez très bien le recul des glaciers et qui se fait par grossissement de lacs qui sont au front de ces glaciers. Donc, à partir de toutes ces mesures, on peut donc reconstruire des courbes d'évolution de longueur des glaciers. C'est ce qui vous est représenté à gauche, avec les évolutions vers le haut, c'est les avancées, puis vers le bas, c'est les reculs. Et j'ai remis l'échelle qui vous donne quand même l'amplitude du retrait des glaciers qui dépasse, dans de nombreux cas, 3 à 4 km. Alors, à partir de ces mesures, et notamment de mesures pour environ 170 glaciers répartis sur l'ensemble du globe, et à partir d'un petit modèle de dynamique glaciaire qui permet de prendre en compte le décalage entre changement du climat et réponse du front du glacier, un collègue, un Hollandais, Orlemans, a été capable de reconstruire les variations de température nécessaires pour expliquer l'évolution de chacun de ces glaciers. Il a pu en tirer une moyenne globale, parce que l'intérêt de ces glaciers qui sont répartis sur l'ensemble du globe. Donc, vous voyez la courbe qu'il a pu reconstituer, hein, qui commence en 1600. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut comparer cette hausse de la température mesurée indirectement par les glaciers avec celle qui est déduite des séries de températures mesurées par des thermomètres. Et les deux arrivent à une hausse de l'ordre de 0,6 à 0,7 degrés au cours de la fin du 19e siècle et puis du 20e siècle. Donc c'est intéressant parce que ça montre que l'existence d'une moyenne globale a un sens, hein. On a des glaciers qui sont répartis un peu partout à la surface des globes, des séries de températures aussi qui sont réparties un peu partout sur le globe, mais avec un échantillonnage qui n'est pas toujours optimal, parce que c'est des thermomètres qui sont souvent situés près des centres urbains et donc localisés essentiellement dans l'hémisphère nord. Mais le fait que les deux concordent, c'est une preuve supplémentaire de l'existence d'un réchauffement global qui donc atteint de l'ordre de 0,6 à 0,7 degrés. Donc là, on a deux témoins parfaitement indépendants de la hausse de la température globale. C'est intéressant aussi parce que les séries de mesures de thermomètres, hein, je viens de le dire, sont souvent réalisées près des centres urbains et certains peuvent mettre en doute ces séries à cause de l'importance accrue des activités humaines et du réchauffement possible qui pourrait influencer ces séries de thermomètres. Alors le fait qu'on ait ici les glaciers qui sont complètement indépendants et qui apportent la même hausse de température globale, c'est très convaincant pour confirmer cette hausse. Alors je vous l'ai dit, hein, l'interprétation des variations de longueur reste délicate et il y a souvent un décalage dans le temps entre variation du climat et puis variation de longueur. Je vous l'illustre ici à partir des courbes de variation de longueur des glaciers, de quatre glaciers situés juste à côté dans le massif du Mont Blanc. Donc c'est peut-être difficile à lire. Donc en haut, c'est glacier de Trian, ensuite glacier des Bossons, Argentière et la mer de glace. Donc là encore, hein, quand la courbe va vers le haut, le glacier avance. Quand la courbe va vers le bas, le glacier recule. Donc ces glaciers ont reculé de l'ordre de 1 à voire un peu plus d'un kilomètre depuis 1870. Mais vous voyez qu'il y a des oscillations décennales avec des périodes de réavancée. Notamment une période de réavancée de tous ces glaciers dans les années 80 et 90 qui fait suite à des bilans de masse positifs des glaciers dans les années 80. Et si on regarde l'avancée maximale du glacier, et si on place cette barre au niveau de l'avancée maximale du glacier des Bossons, vous voyez que le pic d'avancée dans le temps est décalé d'un glacier à l'autre. Le décalage ici maximal, c'est pour la mer de glace avec un retard d'environ une quinzaine d'années par rapport au glacier des Bossons. C'est-à-dire que le glacier des Bossons est un glacier très pentu qui réagit très vite, quasiment instantanément en fait, aux variations du climat au niveau de son front, à la différence de la mer de glace qui est un glacier beaucoup plus long et qui donc a un temps de réponse plus important aux variations du climat. Donc quand on interprète ces fluctuations glaciaires, évidemment, il faut bien prendre en compte ces effets de décalage. Et du coup, les glaciologues préfèrent étudier le bilan de masse, donc la variation de masse des glaciers, et ils le mesurent sur le terrain en fait depuis les années 50, et on dispose aujourd'hui de séries de 50 à 60 années de bilan de masse sur les glaciers. Donc la mesure du bilan de masse, ça consiste à mesurer l'accumulation, donc ça, pour ça on fait des petits carottages, jusqu'à donc 6, 8, 10 mètres s'il faut, jusqu'à retrouver l'horizon sombre qui marque la fin de l'été précédent. On va estimer la densité de ces carottes pour traduire ça sous forme d'une lame d'eau. Ça, c'est la partie haute, la partie accumulation. Dans la partie basse, on utilise des balises qui sont implantées dans le glacier. Et en fait, c'est une série de balises de bois de 2 mètres chacune qui sont raccordées par une petite ficelle. C'est très artisanal, mais ça marche bien. Et donc, on va faire un trou avec une foreuse jusqu'à 10-12 mètres et insérer dans la glace cette série de 5-6 balises de 2 mètres chacune. Et pourquoi des balises aussi longues ? Parce que je vous l'ai dit, dans la partie basse, l'ablation, la fonte en moyenne annuelle peut atteindre jusqu'à 8 mètres, voire 10 mètres dans certaines zones. Donc quand on revient l'année d'après, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à droite, vous allez trouver toute une série de balises sur le sol, et en comptant ces balises et en mesurant l'émergence de la dernière, on a la quantité de glace qui a été perdue par le glacier. Et ensuite, évidemment, la différence entre accumulation en haut et ablation en bas va donner le bilan de masse annuel, donc de savoir si le glacier a gagné ou perdu de la masse. Donc, ces mesures de bilan, on démarre dans les années 50, notamment au moment de l'année géophysique internationale, et donc on dispose de ces mesures de bilan de masse un peu partout à la surface du globe. Cette carte est peut-être un peu trompeuse. Alors c'est vrai qu'il y a 300 glaciers pour lesquels on a des séries, on a au moins une année de bilan de masse. En fait, les séries longues et continues sont beaucoup plus rares. C'est plutôt une quarantaine à une cinquantaine de glaciers pour lesquels on a ces informations. Donc ce qui est important avec ces bilans de masse, c'est qu'on peut découpler ce qui se passe au cours de l'hiver et ce qui se passe au cours de l'été. Donc c'est un travail qui a été fait par Omura, un collègue japonais, de compiler ces bilans de masse depuis 1965 jusqu'à 2000 et de voir l'évolution au cours du temps. Donc ce que vous avez ici, c'est la moyenne du bilan de masse annuel pour 50 glaciers. Donc vous voyez que les années où le bilan est positif sont très rares, c'est-à-dire que les glaciers perdent de la masse et que cette perte est de plus en plus forte au cours du temps. Bon, ça, ce n'est pas une surprise, hein, ça va de pair avec un recul généralisé des glaciers. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir voir comment se comporte le bilan hivernal et estival. Donc ici, vous avez le bilan hivernal. Logiquement, il est positif, c'est la période d'accumulation, avec une moyenne de 1 mètre d'eau accumulée chaque année, chaque hiver, en fait, sur les glaciers. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au cours du temps, il y a une très légère tendance à l'augmentation du bilan de masse hivernal, donc une légère tendance à l'augmentation de l'accumulation. Et ça, ça traduirait une augmentation des précipitations, et donc possiblement un cycle hydrologique plus intense, avec plus de précipitations sur les continents et plus d'évaporation sur les océans. Donc le signal et la tendance restent faibles, donc ça demande d'être confirmé dans le futur. Mais évidemment, cette évolution hivernale ne va pas expliquer ce qu'on observe en moyenne annuelle. Et donc, vous l'avez déjà deviné, c'est en été, les bilans de masse estivaux qui sont négatifs et qui sont de plus en plus négatifs au cours des dernières années, qui expliquent que les glaciers perdent de plus en plus de masse. Et on sait que ce bilan de masse hivernale est très étroitement relié à la température. Et donc, ces bilans estivaux de plus en plus négatifs traduisent eux aussi l'augmentation de la température globale. Donc on voit comment découpler ici les bilans entre deux saisons permet d'utiliser des glaciers comme indicateurs climatiques et ils semblent traduire l'augmentation des précipitations, possiblement, et sûrement l'augmentation de la température globale. Alors passons aux satellites. Alors pourquoi avoir recours aux mesures satellitaires ? On voit qu'on a déjà énormément d'informations à partir des observations de terrain, mais évidemment ces observations de terrain sont limitées à quelques glaciers accessibles et souvent de petite taille. Donc l'intérêt du satellite, c'est que ça va nous offrir une couverture régionale, voire globale, d'arriver à étudier des glaciers de grande taille. Certains glaciers en Himalaya font 70-80 km de long, et donc il est très compliqué d'avoir un échantillonnage sur le terrain qui soit représentatif. On va pouvoir aussi étudier des zones qui sont inaccessibles des glaciers, des chutes de sérac ou des zones à très haute altitude qu'il est délicat d'aller échantillonner. Et puis, on peut même s'intéresser à des glaciers que je dirais politiquement incorrects. Actuellement, on travaille beaucoup sur une région qui s'appelle le Karakoram, à la frontière dans le Cachemire, frontière Inde-Pakistan-Chine. C'est une région qui est politiquement compliquée. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du glacier Siachen, qui est considéré comme le champ de bataille le plus haut du monde, avec de chaque côté de la montagne des troupes indiennes et pakistanaises qui régulièrement s'envoient des surprises. Et donc, le glaciologue n'a pas du tout envie d'aller mettre ses crampons dans son région. Donc, c'est sur ces zones-là qu'il est vraiment utile de pouvoir travailler par satellite. Alors, je veux vous montrer, pour vous illustrer un peu ce qu'on peut faire par satellite et le type de données qu'on utilise, je vais vous montrer ici une animation qui a été réalisée à partir d'images du satellite Spot 5. Donc le relief a été restitué dans les images, ce qu'on appelle drapé, sur une topographie, sur un modèle numérique de terrain. Et donc c'est ce type de données qu'on utilise pour suivre l'évolution des glaciers par satellite. Alors pour ceux qui connaissent, on décolle au-dessus de Chamonix, on voit le golfe à gauche et on suit globalement au début le trajet du train du Mont-en-Vert. On arrive ici au front du glacier, vous voyez qu'il y a des lacs qui sont apparus dans les années 80 et qui grossissent. La langue glaciaire est fortement recouverte de débris, ce qui traduit une langue glaciaire en état de perte de masse importante. Et puis on s'élève progressivement sur le glacier. Vous retrouvez ces bandes, cette alternance de bandes sombres et claires, les bandes de Forbes. et on va arriver dans la zone d'accumulation. Et en arrière-plan, vous verrez le sommet du Mont Blanc et glacier des Bossons. Donc c'est ce type d'image que l'on utilise, et en finalement en répétant ce type d'observation dans le temps, et c'est comme ça qu'on arrive en fait à mesurer les variations de l'altitude de la surface des glaciers, et c'est ce qui vous est illustré ici. Alors cette fois en noir et blanc, c'est un peu moins joli, mais vous avez une animation qui vous montre l'évolution des altitudes de trois glaciers du massif du Mont-Blanc, Argentière, Mer de Glace et Talefre, entre 1994 et 2003. Et même sur une courte période de temps comme celle-là, on voit assez bien l'abaissement de la surface. Et en faisant la différence finalement de ces deux topographies, on peut estimer les variations d'épaisseur en fonction de l'altitude sur le glacier. C'est ce que vous avez sur la courbe à droite. Donc vous avez les variations d'épaisseur en mètres par an en fonction de l'altitude. Donc tout ça, c'est pour la langue de la mer de glace. En noir, en fait, vous avez la période 79-94. Donc on avait des pertes de l'ordre de 1 mètre par an pour toute la langue du glacier qui se sont accélérées à environ presque 3 mètres par an pour la période 94-2000 et puis 4 mètres par an pour la période 2000-2003 et aussi pour les années les plus récentes. Donc on voit bien ici une accélération des pertes de cette langue de la mer de glace. Ce qui est intéressant pour ce glacier, c'est qu'on a beaucoup de mesures de terrain et on a pu utiliser ce glacier, la mer de glace et le glacier d'Argentière, pour valider les mesures satellitaires. L'intérêt du satellite ensuite, c'est d'aller voir au-delà des glaciers qui sont suivis sur le terrain. Et donc vous avez ici une carte qui vous traduit les variations d'épaisseur des glaciers du massif du Mont-Blanc entre 1979 et 2003. Donc en bleu et noir, ce sont les zones qui s'amincissent fortement. Et pour chaque glacier, vous avez une courbe qui vous montre la variation d'altitude de la surface en fonction de l'altitude. Donc on voit que tous ces glaciers ont des fortes pertes d'altitude, des fortes pertes d'épaisseur dans leur partie basse, et qu'en revanche, les bassins d'accumulation résistent plutôt bien avec des pertes quasiment nulles. Donc ça, c'est une réponse finalement attendue de ces glaciers à l'augmentation de la température. On va sortir du contexte alpin et aller se balader dans différentes autres régions du globe. Ici, les glaciers d'Alaska, qui sont connus pour être un des contributeurs principaux à la hausse du niveau marin. Bah, vous voyez ici pourquoi. Hein, cette animation vous montre en 80 une image Landsat et en 2007 une image de Spot 5. Et donc, je vous mets les échelles parce que ce n'est pas toujours évident de se rendre compte, mais le front du glacier a reculé de 15 km et s'est aminci de près de 300 mètres. Autre région intéressante, une petite île au milieu de l'océan Indien, la calotte Cook des Kerguelen. Et là encore, aller faire des mesures de terrain sur cette région-là, c'est extrêmement compliqué à cause de conditions climatiques très difficiles. Ceux qui ont été faire des mesures dans les années 70 avaient passé 2 mois près du glacier Ampère pour travailler seulement quelques jours. Donc ici, le satellite, c'est plus confortable. Et donc, vous avez à gauche une animation qui vous montre l'évolution du front du glacier avec une carte dressée par l'IGN en 63, puis deux images satellites Spot en 91 et 2003. Et vous voyez, le recul est considérable. Et si vous regardez à droite, là, vous allez voir la position du glacier en 63 et en 2001, en rouge. Et vous voyez très nettement que ce recul et cette perte de surface du glacier s'accompagnent d'un amincissement très fort. Ici, l'amincissement atteint de l'ordre de 200 mètres. Et enfin, dernière région, je ne vais pas balayer toutes les régions du globe, mais dernière région qui nous intéresse fortement actuellement, notamment suite à la polémique qui était née en 2010 et l'erreur du rapport du GIEC, qui en fait soulignait le manque de données sur l'évolution des glaciers d'Himalaya. Donc c'est des programmes qui avaient démarré avant 2010, même avant 2007, hein, avant la polémique. Il y a des mesures qui sont faites sur des glaciers sur le terrain depuis 2002 par des collègues du laboratoire de glaciologie de Grenoble et de l'IRD. Mais donc évidemment, cette polémique nous a incités à travailler encore plus sur cette zone. Et je vais vous montrer ici des résultats récents dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse au cours des dernières semaines sur cette région qui s'appelle le Karakoram. C'est la région où on trouve le K2 et les plus grands glaciers de l'Himalaya, donc tout à l'ouest de la chaîne himalayenne. Et donc là encore, je vous montre une carte de variation d'altitude de la surface des glaciers avec en rouge les zones qui s'amincissent fortement. On a des amincissements ici en 10 ans, entre 2000 et 2008, qui atteignent 150 mètres. Et puis d'autres zones en bleu qui, au contraire, elles, s'épaississent de 100 à 150 mètres en seulement 10 ans. Donc ça, c'est la signature d'une dynamique propre de ces glaciers. C'est la signature de ce qu'on appelle en anglais des surges. Donc vous voyez ces alternances pour un même glacier de zones qui s'épaississent et qui s'amincissent très fortement. Et donc, ça vous est illustré ici par ces deux images. Une image en juillet 2001, avant l'événement de ce qu'on appelle une poussée glaciaire, ou un foirage en français. Bon, je vais utiliser le terme surge, qui est plus courant. Et puis, vous voyez ici, en septembre 2009, le glacier qui a avancé brutalement et qui est venu poinçonner véritablement le glacier situé en bas. Et cette avancée brutale du glacier s'accompagne d'un épaississement très fort de la langue glaciaire. Alors, pour ces glaciers-là, il est donc très délicat d'interpréter les variations de longueur du glacier, parce qu'elles traduisent avant tout des variations de la dynamique du glacier, ces événements extrêmement brutaux. Et donc, c'est là tout l'intérêt de ces mesures qu'on peut faire aujourd'hui par satellite de bilan de masse, de variations moyennes d'altitude de la surface, qui sont un meilleur reflet des évolutions du climat. Et là, c'est la surprise un peu en ce qui concerne cette zone, c'est qu'on a trouvé enfin une zone glaciaire où, au cours du XXIe siècle, les glaciers grossissent. Alors, c'est léger, hein, le grossissement, c'est 10 cm par an au cours d'une décennie, et c'est quand même une période assez courte. Mais quand même, cette anomalie du Karakoram mérite qu'on s'y intéresse un peu plus pour essayer de comprendre l'origine de ces évolutions glaciaires et ces gains de masse au sein des glaciers. C'est probablement l'augmentation des précipitations qui est responsable de ces périodes de gains, mais on a très très peu de séries de températures et précipitations dans ces régions pour vraiment avancer dans l'interprétation de ces résultats. Alors quand on a fait ces études à la fois sur le terrain et par satellite et qu'on les synthétise à l'échelle globale, c'est notamment un des efforts qui est fait dans le cadre du GIEC, on peut arriver ici à des bilans de masse cumulés, donc des quantités donc en mètres. Donc ce que vous avez, c'est l'épaisseur totale gagnée ou perdue par glacier au cours ici des 35 dernières années. Donc on voit finalement des variations régionales assez importantes, il n'y a pas du tout un signal homogène de tous les glaciers. L'amincissement le plus fort, il est mesuré en Patagonie et en Alaska, donc dans des régions au climat plutôt maritime. Et vous voyez ici en noir la courbe qui concerne les glaciers himalayens, les hautes montagnes d'Asie, vous voyez qu'elle est à peu près dans la moyenne, il n'y a pas un comportement spectaculaire des glaciers himalayas. Et ça encore, c'était une erreur du rapport du GIEC de dire que les glaciers d'Himalaya reculaient plus que partout ailleurs. Non, en termes de bilan de masse, ici, ils se retrouvent à peu près dans la moyenne. On peut ensuite intégrer région par région donc ces variations d'épaisseur, et puis arriver aux pertes de masse totales de l'ensemble des glaciers. Donc vous avez ici donc leur perte de masse. Alors l'unité, c'est des gigatonnes par an, elle n'est pas très parlante, mais je vous ai mis en tireté les hausses équivalentes du niveau de la mer. Donc vous avez le tireté du haut, c'est 0,5 mm par an, et puis celui en dessous, c'est 1 mm par an. Donc ce qu'on voit ici dans cette compilation à l'échelle globale, c'est que la contribution des glaciers à la hausse du niveau marin a tendance à s'accélérer, les bilans de masse sont de plus en plus négatifs, et pour la période récente, on a depuis 2000 environ une contribution de l'ordre de 1 mm par an. Alors je reviendrai après sur la hausse du niveau marin, mais c'est à peu près un tiers de la hausse totale du niveau de la mer. Donc pour conclure sur ces fluctuations récentes des glaciers, donc le front d'une grande majorité de glaciers recule, il y a des rares exceptions, mais on sait les expliquer par une dynamique particulière, comme je vous l'ai illustré pour la région du Karakoram. Et ça peut aussi s'expliquer par des bilans positifs et des précipitations excédentaires. Dans presque toutes les régions du globe, les glaciers perdent de la masse, et ce depuis au moins les années 90, et donc c'est la fonte accrue au cours de l'été, et donc l'augmentation des températures qui explique ces pertes croissantes de masse. En fait, les chutes de neige hivernale varient assez peu et peut-être augmentent légèrement. Donc ce recul glaciaire généralisé, l'augmentation de la fonte estivale, démontre la hausse globale des températures. Alors quelles sont les conséquences du recul des glaciers, pour terminer l'exposé ? Bon, il y a des conséquences en termes de tourisme. Si vous voulez voir de la glace en haut du Kilimandjaro, il faut vous dépêcher, ça ne va pas durer très longtemps. Et puis c'est vrai que les paysages alpins vont aussi considérablement évoluer avec le recul des glaciers. Déjà, la mer de glace n'est plus aussi belle que ce qu'elle a pu être, avec cette partie basse très couverte de rochers. Autre conséquence peut-être plus importante, en termes de ressources en eau, les glaciers jouent un rôle de château d'eau, puisqu'ils stockent l'eau sous forme solide au cours des périodes pluvieuses, et notamment essentiellement au cours de l'hiver, et vont la restituer, donc avec un décalage temporel, la restituer au cours de l'été, au moment où on en a besoin, pendant les périodes sèches. Donc avec des conséquences pour l'hydroélectricité, évidemment, dans nos régions, notamment dans les Alpes. Et puis, pour certaines régions, la ressource en eau est même importante pour, tout simplement, l'alimentation hydrique de certaines populations. Vous avez ici une photographie de La Paz, en Bolivie. C'est une zone où il y a déjà un stress assez important tout simplement pour l'alimentation en eau. Et donc, il est important d'essayer d'estimer quelle va être l'évolution des glaciers et l'évolution de l'eau fournie par ces glaciers. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte quand on regarde ces évolutions, hein, c'est que le rôle des glaciers est très important en période sèche, puisque c'est le moment où ils vont fondre préférentiellement, et c'est le moment où les débits sont les plus faibles. Donc ici, vous avez une simulation un peu de ce que va devenir la ressource en eau pour la région de La Paz pour différentes saisons, si les glaciers disparaissent complètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le glacier disparaît, il y a quand même de la pluie qui va tomber. La différence, c'est qu'au lieu d'être stockée et d'être libérée de manière décalée, eh ben, elle va ruisseler immédiatement et donc être disponible immédiatement. Donc, ce qui explique que c'est surtout en saison sèche que la disparition des glaciers va avoir un impact fort. L'autre conséquence de ce recul des glaciers, hein, de ces pertes de masse des glaciers, c'est la montée du niveau marin. Donc, le niveau marin, il est mesuré très précisément, notamment depuis qu'on a des altimètres embarqués à bord des satellites. Donc ça, c'est tout un travail qui est mené notamment à Toulouse. Et la hausse observée depuis 1993, depuis qu'on a ces satellites altimétriques, elle est d'un peu plus de 3 mm par an. Donc les causes de la montée du niveau des mers, la première, c'est la dilatation, donc l'expansion thermique d'un océan qui est de plus en plus chaud. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet stérique. Et puis la deuxième cause possible, c'est l'addition, la soustraction de masse d'eau à l'océan. Donc là, c'est la fonte des glaciers et des calottes polaires. L'effet des barrages qui vont avoir tendance à retenir l'eau sur les zones continentales. Et puis, à l'inverse, le pompage des nappes phréatiques par les activités humaines et l'irrigation qui va avoir cette fois tendance à faire partir l'eau dans les océans une fois qu'elle a été utilisée pour l'irrigation. Donc, on arrive en tout cas maintenant sur la période des observations altimétriques, donc sur la période où on a le plus de mesures satellitaires, à la fois en termes de hausse du niveau marin, mais à la fois en termes de bilan de masse des glaciers et des calottes polaires. On arrive presque à boucler le bilan de la hausse du niveau marin. Donc, vous voyez, sur les 3 mm par an de hausse observée, la dilatation, donc le réchauffement des océans, explique environ un tiers, les calottes polaires un petit tiers et les glaciers un gros tiers. Donc, je reviens sur les chiffres que j'avais donnés au début. Hein. En termes de réservoir total, les glaciers sont faibles par rapport aux calottes glaciaires. Par contre, sur des courtes périodes de temps, avec des fluctuations rapides du climat, ils réagissent très vite. Et donc, cumulés, arrivent à contribuer fortement à la hausse du niveau marin. Une des préoccupations importantes, c'est d'arriver à projeter cette hausse dans le futur. Donc, sur ce terrain-là, le rapport du GIEC de 2007 avait été très conservatif, hein, très prudent, et annonçait des hausses possibles entre 20 cm et 45 cm. Donc depuis ce dernier rapport de 2007, il y a eu beaucoup de nouvelles estimations, et notamment de développement de modèles plus empiriques, finalement plus simples, mais qui disent qu'on ne peut pas exclure des hausses beaucoup plus rapides et des hausses qui peuvent atteindre 1 mètre à l'échéance de 2100. Donc pour l'illustrer, je vous montre l'évolution du trait de côte de la Floride, hein. Là, le scénario qui est utilisé par nos collègues américains pour avoir un peu plus de sous, c'est ils montent la Floride parce que la NSF est localisée là, et puis ils disent que le Groenland va fondre complètement, parce que comme ça, la NSF, la National Science Foundation, a les pieds dans l'eau. Bon, nous, c'est un peu plus compliqué, parce que Bercy est un peu plus haut en altitude, mais il va falloir envisager des scénarios un peu plus violents pour, pour financer nos recherches. Non, plus sérieusement, donc il y a tout un effort, évidemment, de projection de l'évolution des glaciers. Alors, c'est compliqué pour les calottes polaires, c'est en fait très compliqué aussi pour les glaciers. La grosse complexité, c'est qu'il y en a plus de 200 000 à la surface de la Terre, et donc on est quasiment obligé d'arriver à les modéliser un par un. Et donc il y a un effort à l'échelle individuelle de quelques objets glaciaires pour arriver à affiner ces modèles, et puis ensuite essayer de les appliquer avec des simplifications raisonnables à l'ensemble des glaciers du globe. Donc vous avez ici un travail qui est fait par les collègues grenoblois, sur le glacier de Saint-Sorlin, qui ont simulé, avec deux simulations, une où le glacier est soumis au même climat que les 50 dernières années, donc le même bilan de masse que le bilan de masse moyen des 50 dernières années, donc c'est ce que vous avez ici. Donc ce qu'on voit, c'est que le glacier actuellement n'est pas en équilibre avec le climat des 50 dernières années, puisqu'il continue de reculer et de perdre de l'épaisseur dans le futur. Par contre, le glacier arrive à retrouver un nouvel état d'équilibre, en fait, il va se réfugier à haute altitude, où la température est plus faible, et donc il va pouvoir retrouver finalement un bilan de masse équilibré en ayant condamné ces parties basses où les pertes sont les plus fortes. Et après, le même exercice a été fait cette fois avec des projections climatiques, donc un des scénarios du GIEC, scénario B1, Et bon, là, je vous laisse voir le devenir de ce glacier. Ben, il n'est pas très, très optimiste. Donc, vous voyez très vite des zones de rochers qui apparaissent même dans les parties hautes du glacier. Et ces zones de rochers vont jouer un rôle de rétroaction positive puisqu'elles vont capter, puisqu'elles sont plus sombres que le glacier, elles vont capter l'énergie, la concentrer et faire fondre le glacier qui est autour. Donc ça, c'est des rétroactions qui sont importantes dès que le glacier commence à se morceler en plusieurs morceaux. Voilà, donc ce qui avait fait titrer dans le Dauphiné libéré au sujet des glaciologues, ils fondent pour leur glacier. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous ai mis quelques références. Si vous voulez aller plus loin, en ce qui concerne les glaciers, un livre qui a été fait par Bernard Francou et Christian Vincent, Les glaciers à l'épreuve du climat. Pour l'Antarctique, elle n'en a peut-être pas fait la pub elle-même, donc je le fais pour elle, son livre sur l'Antarctique de Frédéric Rémy. Et puis, pour replacer ça dans le contexte d'évolution de l'océan, il y a un bel ouvrage qui est paru récemment sous la direction d'Édouard Barre, L'océan, le climat et nous. Et puis, l'ouvrage plus technique peut-être du CNRS sur le climat à découvert, où vous retrouvez aussi un chapitre sur l'évolution du bilan de masse des glaciers et des calottes polaires.
Canal Academy vous propose cette retransmission d'Étienne Berthier, chargé de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire Midi-Pyrénées. Cette conférence présentait les études satellitaires qui sont effectuées sur les glaciers, principaux témoins des changements climatiques récents. Les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître le programme des futures conférences, je vous invite à vous rendre sur le site www.bureaudeslongitudes.fr. À bientôt sur Canal Academy pour de nouvelles retransmissions.